heures, vous avez entendu les tops, il est 8h. L'heure de journal présentée par Florian Laffont, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. De l'eau dans le gaz pour Perrier. La France est convoquée à Bruxelles pour s'expliquer sur les pratiques pas très nettes du groupe Nestlé sur ses eaux minérales. Il faut sauver le soldat Atos. Le groupe informatique est en grande difficulté financière et le gouvernement veut impérativement garder ses activités dans l'Hexagone. Et puis, le retour du roi. 3 mois après l'annonce de son cancer, Charles III va pouvoir reprendre aujourd'hui une partie de ses activités. Mais tout d'abord, les suites de la mort de Matisse à Châteauroux samedi. L'adolescent de 15 ans, suspecté de l'avoir tué à coups de couteau, a été mis en examen et écroué. Sa mère a également été inculpée. Elle aurait giflé la victime après les coups de couteau donnés par son fils. Gérard Depardieu, sur le banc des accusés, en octobre prochain, l'acteur sera jugé suite aux plaintes de 2 femmes qui l'accusent d'agression sexuelle commise lors du tournage du film « Les volets verts » en 2021. 4 mois après les premières révélations sur le scandale des eaux contaminées, la France doit aujourd'hui s'expliquer face à la Commission européenne. Nestlé est accusée d'avoir vendu de l'eau sous les appellations minérales ou de source, alors qu'elles avaient subi des traitements interdits. Une pratique qui interroge la responsabilité des autorités françaises, Geneviève.
Oui, car la France a été informée dès août 2021 de l'utilisation de ces traitements par Nestlé. La société aurait même obtenu l'autorisation de poursuivre la commercialisation de ces bouteilles de Perrier, Vichy ou encore Vittel, malgré ces traitements. Une autorisation qui doit pourtant être validée par l'Union européenne avant d'être émise par un État membre. Sollicitée par l'ONG Foodwatch, la Commission européenne assure ne pas avoir été informée de cette situation avant la publication des enquêtes au mois de janvier. Elle doit organiser prochainement un audit auprès des autorités françaises chargées d'assurer le respect des normes européennes.
Et la semaine dernière, Nestlé a dû détruire 2 millions de bouteilles de Perrier à cause de la présence de la bactérie E. coli dans une source du Gard. Autre groupe dans la tourmente, mais pour d'autres raisons, l'entreprise de tech française Atos, qui est dans le rouge. Il lui manque plus d'1 milliard d'euros pour ne pas mettre la clé sous la porte. Bruno Le Maire a annoncé que l'État souhaite acquérir toutes les activités souveraines du groupe. De quoi garantir une sécurité au vu de leur caractère sensible, selon Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS.
Si vous prenez actuellement toutes les entreprises françaises qui sont dans la dissuasion nucléaire, que ce soit Airbus avec les missiles, MBDA également avec le missile SMPA, Safran avec une partie de la propulsion des missiles. Il existe des accords en fait avec ces entreprises qui protègent les activités sensibles de ces entreprises, avec des droits de préemption par exemple, si ces activités étaient amenées à être vendues. Donc en fait, on protège toujours ces activités dans ces cas-là, si vous avez une entreprise privée qui est actionnaire à côté.
Et Atos qui travaille également avec l'armée française. La région Île-de-France suspend quant à elle ses financements à Sciences Po Paris. La présidente de la région, Valérie Pécresse, a décidé de ne pas affecter la subvention de plus d'1 million d'euros à l'école tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies. Des manifestants bloquent depuis vendredi l'accès à l'établissement en soutien à la Palestine. La guerre au Proche-Orient, justement, sur laquelle les insoumis s'étaient exprimés à l'automne dernier, Mathilde Panot et Rima Hassan vont être entendus par la police aujourd'hui dans le cadre d'une enquête ouverte pour apologie du terrorisme. Le texte incriminé avait mis en parallèle l'attaque du Hamas à l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Retour aux affaires pour Charles III aujourd'hui. Buckingham Palace a annoncé que le souverain britannique allait reprendre ses activités 3 mois après l'annonce de son cancer. Ses médecins jugent très encourageants les progrès de son état de santé. Mais Manon Bacour, les apparitions publiques seront décidées au cas par cas.
Oui, des sorties qui seront adaptées si nécessaire pour minimiser les risques sur la guérison du roi selon Buckingham. Ce mardi signe donc son grand retour et tout un symbole. Charles III visitera un centre de lutte contre le cancer. Il rencontrera l'équipe médicale et les patients. Autre échéance assurée par le couple royal, la visite d'État fin juin de l'empereur Naruhito du Japon et son épouse l'impératrice Masako. Si les médecins sont optimistes sur l'évolution de son cancer, le souverain ne suivra pas un programme estival complet. Il devrait rester éloigné de la vie publique et se concentrer sur le jardinage, une passion que le roi et la reine ont développée pendant la pandémie et qu'il continue d'entretenir à Balmoral.
Et on passe au sport. Pas de JO pour l'athlète Mouamoudou Fall. Le sprint footballeur français a été suspendu 9 mois pour dopage. Le quadruple champion de France du 100 mètres a été contrôlé positif en juillet dernier en stimulant interdit. Et puis, méga bassine, cyberattaque, éco-geste ou encore trottinettiste. Voici quelques-uns des nouveaux mots qui feront leur entrée dans le Larousse 2025. 40 personnalités vont aussi intégrer le dictionnaire, parmi lesquelles Beyoncé, Virginie Efira, Omar Sy ou encore Antoine Griezmann. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente matinée. À notre écoute.
Et c'était Florian Lafont qui était avec nous pour les informations. Florian qui revient tout à l'heure aux alentours de 9h moins le quart à la fin de la matinale. Allez, on va prendre des nouvelles de la météo tout de suite.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.
Des pluies et du vent arrivent sur le Finistère. C'est une nouvelle perturbation qui va traverser la Bretagne. Une perturbation qui aborde la pointe bretonne et qui s'enfonce lentement, accompagnée de pluies parfois soutenues et d'un vent de sud qui souffle à 80 km/h sur les côtes, entre 60 et 70 km/h dans l'intérieur des terres. Ce matin, le soleil fait encore de la résistance sur l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique, alors que les nuages précurseurs de la perturbation arrivent sur le Morbihan et les Côtes d'Armor. Les pluies, accompagnées d'un vent de sud qui restera soutenu, vont progresser vers l'Ille-et-Vilaine et le bassin nantais dans le courant de l'après-midi. Quelques apparitions du soleil seront possibles en fin de journée sur le sud de la Bretagne, alors que la couverture nuageuse restera importante sur le Finistère et plus généralement sur le nord de la région. Les températures minimales se radoucissent, elles vont de 6 à 11 degrés de l'intérieur des terres à l'ouest de la région ce matin. Les maximales varieront entre 13 et 18 degrés dans la journée de la pointe bretonne à la Loire-Atlantique.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.
Et tout de suite à 8h06 sur Bretagne 5, François Germain nous rejoint à nouveau pour parler cette fois-ci série.
C'est un tournage où tout tourne mal, la série du jour nous plonge dans un véritable fiasco. C'est la grosse sortie française du moment sur Netflix, Fiasco, une comédie avec un très gros casting, Pierre Niney, François Civil, Géraldine Nakache ou encore Vincent Cassel. L'histoire nous transporte sur le tournage d'un film d'aventure, un film très ambitieux mais qui a été confié à un jeune réalisateur beaucoup trop inexpérimenté pour un projet de cette envergure, d'autant qu'il a bien du mal à se faire respecter.
Si tu me loupes, j'aurai pas d'autre chance, c'est mon premier et mon dernier film.
Ça va le faire là, faut que tu te reboostes. Hein.
Oublie tous les gens qui disent que t'es qu'une merde sans aucun charisme.
Hein? Pourquoi, qui dit ça?
Non, mais personne, mais les gens à l'internat, quoi, au village, ta famille aussi.
Bon, allez, super, t'as bien fait de passer, toi, c'est comme ça que tu me remontes le moral.
Un tournage catastrophique, donc, qui va l'être encore davantage lorsque l'équipe s'aperçoit qu'on essaie de s'aborder le film de l'intérieur. La série est créée par Pierre Niney lui-même, en collaboration avec Igor Gottsman. Les deux hommes ont déjà tourné le film Five ensemble, il y a quelques années. On retrouve le duo pour une nouvelle comédie où les blagues fusent, l'envers du décor du monde du cinéma, avec évidemment beaucoup d'exagération pour nous faire rire.
Coupez, coupez.
Non, non, c'est Raphaël qui dit couper.
Non, mais c'est son pied qui est coupé.
Oh là, alors oui, coupez.
What the fiasco?
C'est quoi ce délire? Arrivez-vous à retarder deux minutes? Putain, je monte dans les tours, hein, je monte dans les tours.
François Cluzet.
Oui, oui,
François Cluzet.
La soirée de fou.
Fiasco sur Netflix.
Voilà, ça promet, c'est ce soir sur Netflix. C'était François Germain qui nous parlait série, de cette série que l'on attend avec impatience, signé Pierre Niney. Il est 8h08 sur Bretagne 5. Lui aussi, on l'attend avec impatience. Et bien, il est là, figurez-vous. Voici David Christoffel qui nous rejoint pour son horoscope des méchants. Bonjour.
Bonjour tout le monde, Gémeaux au moins, si vous faites votre petite entreprise à vous, oui au moins, vous pourrez jouer dans le grand monde des chamailles corporatistes. Capricorne, si vous prenez des responsabilités, vous prendrez des risques, vous jouerez à découvert et donc finirez par en être lourd de fierté, bande de winners en puissance. Verseau, être dans l'ennui est plus louable que d'être vexé, alors rendez vos humeurs plus élégantes, hein, merci. Cancer, oui alors vous faites tout ça pour rien, hein. Personne ne voit la vraie valeur de ce que vous êtes en train de faire, mais ça c'est normal, votre petit machin ne regarde que vous, au fond, faut reconnaître. Poisson, les trucs débiles sont aussi énervants que la vérité qui blesse, c'est pas une raison de faire les péteux comme ça sous prétexte de se protéger. Lion, si on vous prend de court, restez encore assez crispé pour répondre doucereusement que vous faites ce que vous pouvez. Scorpion, vous êtes plutôt humilié. Alors, vous n'aimez pas en être même surpris, regardé, maté, jugé, ça change pas du tout le problème, mais je vous comprends quand même. Vierge, faites pas la tête, je veux dire, ça vous aveugle, hein, c'est ça qu'on vous montre, pas le pire, c'est dommage de se passer à côté aussi. Un bélier, on est tout seul, quand on jouit, bah, c'est dire que c'est dangereux de le jacasser, quoi. Balance, pour creuser et s'exciter, comme dit Flaubert, il n'y a pas de mauvais sujet. Taureau, pendant que vous y êtes, pensez pas trop à l'avenir, je veux dire, ça vous détourne du passé, donc Sagittaire, c'est forcé réciproquement. Tout le monde, soyez sages.
Tout le monde, soyons sages. C'était David Christophe, l'horoscope des méchants. On va essayer d'être sage jusqu'à demain, c'est promis. David, vous revenez donc demain sur les ondes de Bretagne 5 dans la matinale. Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h10. Dans un instant, Guérec Hamon, référent Jeune Horizon des Côtes d'Armor, sera avec nous pour l'interview politique de la matinale à 8h15. Le temps pour nous d'écouter quelques notes de musique. On commence avec Pierre Sfarcini de Dams and the Saved.
They went down to the river, found a riverbed dry. He down in the valley where the hummingbird cried. They went down to the shoreline in white rags and bales, and drew out in the sand element for the trail.
Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.
Et les larmes ne dansent pas comme un ange, ça pique au bout de tes phalanges. Et tu t'élances, c'est ton jour de chance. À nouveau cette odeur exquise, portée par là, c'est telle une brise. Près de son cou, tu poses un mot doux. Pause.
C'est Frédéric Coster. On se retrouve le samedi à partir de 22h sur Bretagne 5 pour Solid Gold, votre émission de variété anglo-saxonne. Bonne musique, ambiance, des tubes et des découvertes, des stars et des standards. C'est Solid Gold sur Bretagne 5 le samedi à 22h.
Merci.
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 Merci. Merci.
Écoutez, vos oreilles vous parlent. Elles sont prêtes pour une petite révolution radiophonique, le DAB+. Le DAB+, est la nouvelle technologie de diffusion de la radio en qualité numérique sans abonnement. Avec un poste de radio équipé DAB+, où que vous soyez, chez vous, en voiture, profitez d'une expérience radio unique et d'une qualité d'écoute optimale. Découvrez le calendrier de déploiement sur ensemblepourledabplus.fr.
Et vous pouvez nous écouter, amis auditrices, amis auditeurs, en DAB+, à Brest. Voilà, il s'agit d'avoir le récepteur DAB+, et vous apprécierez la qualité numérique. Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17.
Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin, Guirec Hamon, il est référent Jeune Horizon des Côtes d'Armor. Il est avec nous en direct dans la matinale, je l'en remercie, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
On va parler de politique, on va parler d'Europe ce matin. Je le disais tout à l'heure en commençant, en présentant l'interview de la matinale. On va parler de la campagne européenne, campagne qui se déroule dans un climat, on peut dire, un peu compliqué. On le voit en tout cas au niveau français aujourd'hui. On voit ces manifestations pro-palestiniennes à Sciences Po, la convocation devant la justice de dirigeants de LFI, Rima Hassan, qui est d'ailleurs elle-même sur la liste européenne, qui conduit la liste, elle ne conduit pas la liste, elle est sur la liste européenne de Manon Aubry, je vais y arriver, et Mathilde Panot qui sont convoqués par la justice pour avoir tenu des propos, ou en tout cas on leur reproche des propos qui feraient l'apologie du terrorisme. C'est donc une drôle de campagne européenne qui commence.
Drôle de campagne, moi je trouve que ça, c'est dans le prolongement de cette atmosphère, en fait, environnement depuis plusieurs années, c'est bien de parler des choses qui fâchent. Après, il faut savoir aussi, faut que tout le monde sache comment les recevoir et les traiter. C'est un moment électoral, par conséquent, tout le monde a quelque chose à dire. Un moment difficile. J'imagine que vous faites référence à justement la position de la liste justement pro-européenne. Difficile parce que il y a un brouhaha en permanence autour de ce qu'est et de ce que n'est pas l'Union européenne, et je crois que peut-être que la difficulté, c'est justement d'expliquer tous les 5 ans ce qu'est l'Union européenne et non pas l'Europe qui est le continent. Il y a des confusions, des amalgames qui sont faits, et parfois il y en a qui en tirent profit. Un bénéfice certain, donc je n'ai même pas besoin de donner les noms de ces parties-là. Mais c'est vrai que c'est un défi, parce que ça peut être technique. C'est très technique parfois, et les échecs, c'est toujours sur le compte de l'Union européenne, et les succès, c'est toujours au nom de la France. C'est plus compliqué que ça. Moi, je vois une chose, c'est que l'Union européenne a su, pendant le Covid, la Covid, s'organiser. Alors, il faut savoir que dans les traités, le domaine de la santé, par exemple, c'est pas une compétence de l'Union européenne. Mmh. Et on l'a vu au tout début de la pandémie, c'est-à-dire que sur les tarmacs, tous les pays européens se faisaient de la concurrence. Les Italiens avec les Français allemands, etc., etc., à acheter au plus, enfin, c'était déraisonnable. L'Union européenne a dit que, eh ben, ça suffit. Alors, on n'est pas compétent, mais on va amener à ce que les États membres parlent entre eux. Mmh. Et ça s'est bien fait, ça s'est organisé. Il y a eu un investissement massif, justement, dans la création de vaccins, la distribution de vaccins, distribution au sein de l'Union européenne, mais également dans les pays d'Afrique qui ne pouvaient pas les avoir, puisque c'était trop cher. Mmh.
Donc, il y a une solidarité qui s'est...
Il y a une solidarité. Alors, on dit aujourd'hui, non, il faut ramener tout cela, toutes les compétences sur le plan national, cette souveraineté nationale, cette Europe des États-nations, je ne sais plus comment ils l'appellent.
Europe des nations.
Europe des nations.
C'est le terme que l'on entend beaucoup.
Ben, on l'a vu, en fait, en 2020, ce qui se passait quand c'était ça, la logique. C'est que c'est chacun pour soi. Et il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Les Américains, les Chinois, les Russes également, avec leur vaccin Sputnik, dont on ne sait pas trop vraiment le résultat, l'efficacité de ce vaccin. Il y en a qui tirent profit. Donc, pour ces élections de l'Union européenne, il y a un exemple qui a montré que ça marchait. C'était pendant la pandémie du Covid. Il y a des difficultés, c'est sûr, mais on a des espérances dans le domaine du numérique également, avec notamment une stratégie pour faire face aux géants du numérique étrangers. La France toute seule ne peut pas le faire.
Mmh. On le voit avec les difficultés d'Atos, hein, qui va être peu ou prou racheté par la France. Est-ce que ça peut permettre la première pièce d'un puzzle européen d'entreprise dans l'excellence du numérique, dans l'excellence, dans la recherche?
Oui, c'est les champions européens, il en faut, en tout cas. Et c'est ce que Horizon porte également, c'est que c'est la fin d'une Europe naïve. Naïve dans le sens, pas dans le sens où elle l'était sur tous les plans, mais enfin, dans cet environnement, je dirais peut-être depuis l'élection de Trump en 2016, eh bien, il y a des stratégies agressives. Mmh. On n'est plus dans le commerce pacificateur. Et l'Union européenne, c'est la bonne échelle, puisque c'est un marché, c'est le plus gros marché au monde. C'est le plus gros continent qui a des capacités intellectuelles en termes de brevets également. On a tout pour être une énorme puissance. Par conséquent, il faut continuer, il faut être stratégique et il faut avancer groupé.
Il faut aussi prévoir l'élection possible, le retour de Trump aux États-Unis, l'expansion importante de la Chine, on le voit sur tous les continents, y compris l'Afrique d'ailleurs. Oui. Il faut que cette Europe, cette Union européenne soit forte face à ces changements, à ces bouleversements géopolitiques.
Exactement. Et c'est... On est tributaire finalement d'un vote dont on ne fait pas part, dont on ne fait pas partie, pardon, aux États-Unis. C'est-à-dire, on est dans quelle situation? Pourquoi? Parce que justement, il y a des. Alors déjà, on n'est pas sûr, puisque l'Union européenne, c'est une organisation donc régionale mais internationale, qui a fait le choix du dialogue entre chacun, entre chaque État membre. Il y a une réflexion là-dessus, justement, comment on prend les décisions, est-ce que ça doit se faire par cercle d'influence, c'est-à-dire ceux qui sont pour une intégration plus soutenue, ceux qui le sont moins, etc. C'est une réflexion qu'il faut avoir, mais on ne peut pas être tributaire en permanence. Et sans l'Union européenne, on le serait complètement. Vous parlez de la Chine, oui, la Chine, ça fait des années, ça fait plus de 20 ans qu'elle organise cette influence dans le monde. Les États-Unis l'ont historiquement, surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Union européenne, elle l'a construit. Mais elle l'a construit de façon un peu originale. Alors, est-ce qu'il est temps de revoir les traités, donc de revoir l'organisation? C'est toujours technique, mais il ne faut pas penser qu'en reprenant finalement des compétences souveraines, la France va être plus forte que les États-Unis. C'est faux. Parce que les États-Unis vont pouvoir jouer sur les différents, comme elle le fait dans l'Union européenne. On va pouvoir jouer sur de la concurrence sur le continent et ça va nous affaiblir.
Alors, vous parliez tout à l'heure, Guillaume Camon, de la fin de la naïveté de l'Union européenne. Est-ce que cette fin de la naïveté n'arrive pas aussi avec cette guerre aux portes de l'Union, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Russie qui veut conquérir l'Ukraine, hein, c'est bien ça la finalité de la chose, et qui met en danger, en quelque sorte, la construction européenne, qui met en danger tout simplement les Européens. C'est une question de défense, hein, on entend beaucoup ces jours derniers de réflexion autour de la possible mise à disposition, par exemple, de la force de frappe française pour protéger l'Union européenne. D'aucuns disent que ça va affaiblir la France.
Non. Sur la fin de la naïveté, c'est plus de notre côté de l'Europe de l'Ouest. Parce que dans l'Europe de l'Est, les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, ça fait un moment qu'ils préviennent un peu. Ils connaissent bien le géant russe.
Maintenant, ils subissent des pressions d'ailleurs.
Ah oui, ça fait un moment. C'est pas pour rien que dans les pays baltes, vous avez, ils ont une capacité de défense contre les cyberattaques qui est énorme pour des petits pays comme cela. Donc eux ont sonné l'alarme. On les a pas forcément écoutés. Maintenant, il est vrai que dans l'Europe de l'Ouest, donc dont la France. C'est vrai qu'il y a une fin de cette naïveté. Mais enfin, naïveté apparente, parce que je pense quand même que les Français, les services français sont quand même assez au courant de cela. Maintenant, dans l'opinion publique, certainement. Encore que parfois, l'Ukraine, ça paraît un peu loin encore. Donc là, ensuite sur la deuxième partie.
Alors
de la
question. C'est la protection de l'Europe finalement, oui. par la force de frappe. La France possède l'arme atomique, les autres pays européens ne possèdent pas l'arme atomique, à l'exception de la Grande-Bretagne qui ne fait plus oui. partie de l'Europe, voilà, qui est à côté de l'Europe. Donc comment protéger l'Europe? Est-ce que la France doit aller se défaire de son arsenal nucléaire ou le mettre à disposition de l'Union européenne?
Mais de toute façon, dans les traités, il y a une clause de défense. Donc, par conséquent, si un pays, un État membre de l'Union européenne est attaqué, il y a une solidarité. Donc, la mise à disposition de l'arme atomique de façon absolue, de toute façon, elle se poserait à ce moment-là. Après, est-ce qu'il faut la partager? Je suis pas sûr, parce que j'ai lu ce matin qu'il n'était pas question, en fait, de la partager. Ça fait partie d'un discours aussi. On est capable, finalement, de remettre en cause nos principes et de s'adapter à ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que c'est le bon discours. C'est pareil lorsqu'Emmanuel Macron parlait d'envoyer des troupes. D'ailleurs, c'était pas des troupes militarisées, c'est-à-dire on va aller se battre à la place des Ukrainiens. C'était pas ça qu'il disait. Mais c'est dire que, on a compris le danger. On est capable de s'adapter. Maintenant, à vous de savoir où sont les lignes rouges, on est capable d'y aller. Donc c'est un message aussi envoyé non seulement aux États-Unis, mais à tous les belligérants également. Et là, ça se passe...
Une forme d'avertissement, finalement.
Oui, et avertissement avec une frontière avec ces frontières qui sont celles de l'Union européenne, et non pas seulement de la France. C'est avec une force de frappe de l'Union européenne, avec une construction d'une défense européenne, c'est lourd, c'est pas évident. Mais enfin, le repli sur soi nous coûterait beaucoup plus cher que de chercher justement des alliances. Et cette alliance, elle existe déjà, c'est dans l'Union européenne.
Le discours d'Emmanuel Macron la semaine passée à la Sorbonne, discours qui a marqué, discours, on l'a dit de campagne, on l'a qualifié de discours de campagne. Alors, j'avais presque dire qu'on prenne qui pourra, quelle campagne, la campagne européenne, certainement. Discours aussi assez anxiogène, on entend le président de la République qui dit « attention, l'Europe peut mourir ».
Oui, l'Europe est mortelle. Alors, mortelle dans le sens, elle peut mourir. En effet, vous avez raison de le dire, et non pas est mortelle pour nous.
Oui.
elle est mortelle, en effet. Je sais, comment dire, si on s'intéresse un peu à l'histoire, il y a des empires qui étaient beaucoup plus grands que l'Union européenne qui se sont effondrés.
On pense à l'Empire romain.
Alors, je ne sais pas s'il était beaucoup plus grand, mais enfin, il était quand même d'une taille impressionnante pour l'époque, quand même. Et... penser que parce qu'on est né dans cette Union européenne, elle vivra toujours. Non, on voit bien qu'il y a des formations politiques à l'extrême droite et à l'extrême gauche qui veulent vider de l'Union européenne de sa substance. Alors on ne parle plus de sortir du Frexit. Enfin, ça revient au même quand même.
C'est en fait dénaturer, j'allais dire le sens même, l'essence même de l'Europe, en tout cas de l'Union européenne.
Avec un discours qui est complètement contradictoire, c'est-à-dire que on va redonner les pouvoirs, une souveraineté nationale au pays, et finalement on va garder l'Union européenne. Mais c'est une coquille vide, et on en arrivera à se dire, ben, on va se faire marcher dessus par les États membres de l'ONU, les États de ce monde-là.
Des grandes puissances, finalement.
Oui, et puis dire que revenir sur une souveraineté, ça va nous permettre de nous défendre, c'est faux. C'est faire le meilleur cadeau à tous ces États, justement, États-Unis compris. Ce sont des alliés, mais en termes économiques, ils sont assez redoutables. Les Chinois également, les Russes aussi. Il y a aussi tout le pourtour méditerranéen. Donc, il faut être capable de s'adapter, il faut être capable de discuter. Voilà.
On ne discute pas assez aujourd'hui au sein même de l'UE ou même, j'allais dire, entre États membres même.
Si, c'est quand même un... Alors, on peut parler des bureaucrates de Bruxelles, il en faut quand même. Mmh. Il en faut quand même des gens qui connaissent justement cette base de dialogue.
Ensuite, on reproche cette technocratie, hein,
ça doit certainement exister. Mais c'est aussi parce qu'on ne connaît pas bien, finalement, ce que c'est que l'Union européenne. On ne sait pas, j'en parlais l'autre fois quand j'étais venu, il y a la Commission européenne, il y a le Conseil de l'Union européenne, il y a le Conseil européen, il y a le Parlement européen. À quoi ça sert tout ça?
Faudrait simplifier quelque part.
Ça, c'est une question. Il faudrait très certainement simplifier, mais pas... faudrait pas sacrifier non plus les idéaux de l'Union européenne. C'est le seul exemple au monde, une organisation régionale qui, dans plusieurs domaines, parvient à des compromis. C'est parfois long, c'est parfois difficile, il faut de la discussion, il faut du combat, mais on arrive à quelque chose, c'est-à-dire que chacun a voix au chapitre. Mmh. Bon, on voudrait, nous, c'est très français, c'est très français, mais c'est bien aussi de se dire, il y en a un, il décide, et voilà. Sauf que c'est pas la culture de l'Union européenne, et quand on regarde, par exemple, la culture allemande, dans la culture politique allemande, avec les Länders, l'État fédéral, etc., c'est plus dans une logique de compromis. En France, on a du mal avec ça, c'est historique.
En France, les portes claquent.
Voilà, mais c'est bien aussi qu'elles claquent, parce que ça permet de faire avancer les choses, et rapidement. Mais attention quand même à ce que ce ne soit pas contre-productif. C'est pour ça que c'est difficile de discuter de l'Union européenne, parce que c'est prendre en compte des choses qui sont parfois qu'on comprend pas forcément. Mmh. C'est sur plein de domaines. C'est quelles sont les compétences de l'Union européenne, quelles sont les compétences de la France. Mais je trouve qu'on met sur le dos de l'Union européenne beaucoup, beaucoup de choses mauvaises.
Voilà, alors on parlait de technocratie tout à l'heure. Il y a une autre inquiétude aussi. On parlait de l'Europe des nations. On entend beaucoup aujourd'hui poindre l'idée d'une Europe fédérale avec des régions qui seraient peut-être plus fortes. On en avait parlé l'autre fois de cette fameuse autonomie possible de régions en Europe. Alors évidemment, tout de suite, on pense un peu par chauvinisme, il faut bien le dire, à la Bretagne. Est-ce qu'on va demain vers un affaiblissement des nations au profit, au contraire, de régions plus fortes dans l'Europe.
Mais c'est tout l'enjeu justement des élections qui se passent d'aujourd'hui. Mais les élections au Parlement européen, ce ne sont pas les seules finalement. On dit que la Commission décide toute seule. Non, elle décide pas toute seule. Elle a l'initiative des lois. Elle a l'initiative des lois, mais elles doivent passer devant le Parlement européen qui peut soit modifier ces directives ou règlements, enfin on va appeler ça des lois, et ou alors opposer un veto. Mmh. Donc c'est important. D'autre part, les membres du collège de la Commission, parce qu'il y a plusieurs commissaires européens, il y en a 27, avec un président de la Commission, donc c'est Madame von der Leyen, ils se présentent devant le Parlement européen. Le Parlement européen approuve ou désapprouve. Enfin, ils votent pour ou votent contre. Il y a le Conseil de l'Union européenne. Ce sont des politiques nationaux. Mmh. Ils ont été élus donc par des élections nationales, notamment présidentielles ou législatives. Ça va dépendre des États. Donc non, il y a une démocratie directe. On demande directement aux citoyens pour le Parlement, mais dans les autres institutions. Il y a une démocratie indirecte, c'est-à-dire que ce sont ceux pour qui on a voté en France, en tout cas pour ce qui concerne la France, qui vont ensuite représenter la France dans ces institutions. Donc, là encore, c'est difficile, mais on n'explique pas, et c'est vrai que ça demande une certaine rigueur dans l'approche.
En tout cas, vous l'expliquez très bien, Gareth Lamour. voilà, c'est important de faire aussi ce point sur comment fonctionne cette Union européenne qui parfois paraît un peu loin. Il y a aussi une source d'inquiétude. Aujourd'hui, on voit les populismes monter un peu partout en Europe. Évidemment, on cite toujours en exemple l'Italie, mais il y a aussi depuis peu la Hollande, les Pays-Bas et d'autres pays. On pense à la Slovénie également. Oui. Et la France n'est pas en reste. On voit les promesses de vote pour Jordan Bardella qui représente la liste du RN dans ces élections européennes. On pourrait peut-être rappeler justement dans le fonctionnement de l'Union européenne que si demain le RN envoie 30 députés, c'est ce que l'on dit au Parlement européen, il y a cette fameuse minorité de blocage. Est-ce que demain l'Europe pourrait être bloquée ?
C'est le risque. Mais tout d'abord, alors j'en profite là justement pour dire qu'il y a 81 sièges sur les 750, je crois, ou 700, je ne sais plus exactement, je devrais le savoir, mais il y a 81 sièges qui sont réservés à la France. Ensuite, ces 81 sièges seront répartis en fonction du pourcentage que vont récolter les différentes listes. Bon, si le Rassemblement national arrive avec 29, 30, 31%, ils vont y rafler pas mal de sièges. De là à avoir ensuite une minorité de blocage, c'est possible si dans les autres États membres il y a la même tendance. C'est ce qui semble être le cas pour l'instant. Néanmoins, et je pense que c'est important de le dire, c'est que entre eux, entre populistes d'extrême droite, ils ne sont pas d'accord.
Ils s'entendent pas toujours, non.
Ils s'entendent pas toujours, mais c'est tout à fait naturel puisque chacun veut tirer la couverture à soi. Par conséquent, les souverainistes, les nationalistes, c'est plus juste, nationalistes de Hongrie face aux nationalistes en France ou en Espagne, en Italie, ils veulent pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes gains politiques, pas forcément les gains économiques pour leur pays. Non, non.
Les mêmes aspirations finalement.
Exactement. Donc c'est ça. C'est ce qu'ils nous proposent finalement. Dire que si le Rassemblement national arrive en tête, l'Union européenne va changer, il y aura une minorité de blocage. Pour faire quoi? On va perdre 5 ans encore? C'est ça le bilan que vous nous proposez? Ils ont déjà un bilan. Il n'est pas très glorieux. Il n'est pas très très glorieux. Donc si on est sur cette logique de tous pourris, etc., vous en avez un exemple flagrant au Rassemblement national. Je ne sais plus, il y avait quoi, une centaine ou peut-être 200 amendements déposés en 5 ans par Jordan Bardella contre, c'était peut-être Madame Toussaint qui en avait déposé, non, c'était Monsieur Bellamy, 1200 et quelques pas. Voilà, ils ont été élus, mais ils doivent faire leur travail. Enfin, si c'est pour faire une minorité de blocage et ne rien proposer, c'est pas une solution. C'est le tout ou rien. Soit vous me faites confiance totalement, soit vous me faites pas confiance et dans ce cas-là, je ne fais rien. Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Je comprends que les Français ou même les Européens en aient marre de tout ça, parce qu'on n'explique pas les choses non plus. On les prend un peu de haut. Faut prendre les choses de haut, mais pas les gens. Et donc, il faut expliquer sans langue de bois et puis dire que nous aussi, on comprend pas parfois des choses. On vient vers vous et on discute. Je pense que c'est surtout ça, le vote Rassemblement National.
En France, on a l'impression que finalement, c'est un premier tour, une espèce de primaire de l'élection présidentielle avec un rejet d'Emmanuel Macron, de la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce que finalement, en France, on va voter plus pour la France que pour l'Europe?
C'est la stratégie, en tout cas, affichée. Je me souviens, alors c'était peut-être en novembre ou peut-être un petit peu avant. C'était sûr, je l'avais dit à la radio.
Vous étiez venu en parler, effectivement.
J'avais dit que c'était la stratégie qu'allait utiliser le Rassemblement National. Parce que c'est la seule qui, puisqu'on n'explique pas les choses, ou suffisamment les choses, puisqu'on ne traduit pas ce que c'est que l'Union européenne, on revient sur le dénominateur commun, la France. C'est un vote contre Macron. Non, Emmanuel Macron, le président de la République, il ne sera plus là en 2027. Les députés européens seront là jusqu'en 2029.
Il ne peut pas se représenter au niveau de la Constitution. Non, son dernier mandat.
Donc non, c'est pas ça. Faut dépasser ce clivage-là, mais quand on comprend pas ce qu'est l'Union européenne, je comprends bien que c'est difficile de prendre position. Il faut comprendre que le Rassemblement national ne fera pas mieux. Ils ont gagné en 2019, ils étaient fiers de le dire, On arrive en 2024, l'Union européenne n'est pas plus, est pas en meilleur, en meilleur état, ou en tout cas, ils n'ont pas montré qu'ils pouvaient la faire vivre encore plus brillante, quoi. Mmh. Donc non, c'est et puis il y a des contradictions surtout dans leur composition au sein même du Parlement européen. Ces partis politiques d'extrême droite ne peuvent pas se mettre d'accord. Donc non, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va devoir rédiger un autre traité qui va enlever la substance, ça va encore prendre des années. Non, on perd du temps et ce temps-là, il est gagné pour les autres belligérants. Je parle de la Russie et de la Chine.
Alors justement, la Russie, elle cristallise beaucoup d'attention, de crainte. Il y a cette guerre en Ukraine, il y a plusieurs craintes. Il y a la crainte aussi de certains pays en Europe et aussi des citoyens européens. On pense aux agriculteurs qui se disent si demain l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ça risque de changer beaucoup de choses. Il y a cette crainte-là, puis il y a une autre crainte aussi, c'est cette fameuse crainte de s'immiscer en fait dans cette élection européenne. En gros, de faire passer des fake news, on a vu ces jours derniers, avec des faux de reportages de nos confrères de TF1 qui ont été détournés faire dire ce qu'ils ne disaient pas, finalement. Est-ce que c'est aussi une guerre de l'information?
Oui, tous les moyens sont bons pour nous déstabiliser. Pour les agriculteurs, je comprends totalement. C'est que si l'Ukraine, il est vrai, si l'Ukraine rentre telle qu'elle dans l'Union européenne, ça va créer une distorsion en fait entre la production française ou de l'Union européenne telle qu'elle est et la production de l'Union européenne plus l'Ukraine. Donc oui, il faut prendre ça au sérieux. Il faut savoir le travailler. Néanmoins, si l'Ukraine est envahie par la Russie, ben alors là, c'est leur faire cadeau non seulement de la production de pétrole, de gaz. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent nous tenir diplomatiquement là-dessus, mais faire des pressions, mais également sur le blé, sur les céréales. Mmh. Donc c'est leur accorder finalement. Donc les producteurs, les agriculteurs, là également, ils seront dans une situation délicate. Donc le choix de l'Union européenne de dire on prend finalement l'Ukraine dans nos bras, dans l'enceinte de l'Union européenne, pour aussi éviter qu'elle ne serve contre nous. Il vaut mieux qu'elle soit avec nous que contre nous. Et quand elle est avec nous, il faut, c'est vrai, réfléchir, parce qu'on voit que la Pologne a eu du mal aussi avec ces moments-là de transit des céréales. Ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux et il faut écouter également les agriculteurs. Mais je préfère, à titre personnel, que ce soit nous qui nous en occupons plutôt que la Russie.
Avec la Moldavie aussi qui met un petit peu le pied dans la porte pour dire nous aussi on existe et on subit des pressions de la part de la Russie.
Exactement, d'où l'intérêt d'avoir une Union européenne qui discute avec tout le monde. Donc on a entendu la Moldavie, si l'Union européenne avait été simplement c'est la majorité, on ne l'aurait pas forcément entendu. Donc c'est qu'il y a aussi des bons points. Donc allons-y, on peut le faire si on fait confiance également. Mais je crois que c'est sur le terrain de la confiance que le bas blesse.
Sur les fake news, ça vous inquiète dans les états-majors des partis politiques, à horizon, comme d'autres, j'imagine, mais ça vous inquiète que ces fake news, on l'a vu, Valérie Hayer a été beaucoup attaquée. Est-ce que c'est quelque chose qui peut d'ailleurs faire basculer une élection?
Complètement. En 2017, il y avait déjà eu des tentatives de la Russie sur l'élection présidentielle en France. Il y en a eu en 2016 aux États-Unis. Ça existe. Ça inquiète. Moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est que ces fake news, finalement, il y a des partis politiques qui s'en arrangent. Donc, c'est-à-dire, ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Pour parler une poignée de secondes, Monsieur Bardella n'est pas en reste. Seulement, lorsqu'il faut discuter plusieurs dizaines de minutes en face à face avec une responsable politique comme il y a eu plusieurs invitations, là ça se débine. Donc ça montre bien quelque chose, c'est que c'est finalement la fin justifie les moyens. Mm-hmm. Cette élection doit être là aussi pour dire aux politiques en général, non, on ne nous prenez pas pour des imbéciles. Donc il y a les fake news, ne les croyons pas, mais dans ce cas-là il faut aussi expliquer, je reviens à ce que je disais, il faut expliquer aussi les choses et pas avec la hauteur qu'on peut parfois ressentir justement sur les gens. Quoi. Il faut expliquer les choses, faire attention aux fake news, mais ce qui m'inquiète, c'est effectivement ceux qui les utilisent et qui sont bien contents.
Dans un autre domaine, on a ici en France, je parlais en commençant, et ce sera quasiment ma dernière question, d'un climat assez délétère. On voit Jean-Luc Mélenchon hein, qui agite beaucoup la sphère politique actuellement, et là encore un autre conflit qui s'invite, le conflit entre Israël et le Hamas. Est-ce que c'est quelque chose aussi